Bonjour à tous, je suis Franck Mercier, architecte solution chez Microsoft. Dans cette troisième vidéo, nous allons continuer la mise en place de notre solution Always Home groupe de disponibilité avec SQL Server 2014 sur plusieurs régions Azure. Alors, pour continuer à paramétrer nos serveurs, ce que nous allons faire maintenant, sur chacun de nos nœuds ici, de nos nœuds dans notre cluster, nous allons tout simplement rajouter le compte install que nous avons créé dans la vidéo précédente en tant qu'administrateur de nos machines. Alors là, je vais le faire pour une seule des machines, je vais vous montrer comment faire. Je vais bien entendu ensuite répéter l'opération sur l'ensemble des serveurs participants au file over cluster. Alors pour ce faire, je vais aller dans l'interface moderne ici et je vais tout simplement taper give user administrative right. Voilà. Donc je vais tout simplement exécuter ça. Et ce que je vais faire ici, je vais tout simplement rajouter notre compte install. Voilà, donc là je vais lui donner les droits administrateur. Et voilà, donc j'ai rajouté mon compte ici install sur l'ensemble. Donc un compte de domaine, donc sur ma machine, ma première machine qui s'appelle Node. Et je vais répéter l'opération pour l'ensemble des autres nœuds. Alors, cette vidéo va se focaliser sur le paramétrage du file over clustering au niveau de Windows. Donc ce que l'on va faire. Donc là ici, ce que vous voyez à l'écran, c'est ce qu'on a fait dans, c'est ce qu'on a terminé dans la vidéo précédente sur les mises en place des règles pour les firewalls pour nos serveurs SQL. Et maintenant, ce que l'on va faire, nous avons sélectionné l'ensemble des serveurs qui vont être présents dans le clustering pour justement leur ajouter cette fonctionnalité-là. Alors pour ce faire, je vais sélectionner un des serveurs que je souhaite intégrer dans le file over clustering. Donc là, je vais prendre dans cet exemple-là. Le serveur qui va servir de nœud pour en tant que vote pour le quorum, mais qui n'aura pas de serveur SQL. C'est juste un petit serveur qui va donner sa voix pour le vote. Et ce que l'on va faire donc une fois connecté donc sur ce serveur-là, je vais aller ici dans les outils et pardon dans les rôles ici et les fonctionnalités. Donc je vais rajouter et je vais rajouter la fonctionnalité du clustering. Donc là je fais next next. Voilà, donc je choisis bien mon serveur. Next, c'est au niveau des fonctionnalités où je souhaite aller. Et je vais cocher file over clustering. Et je fais faire rajouter la fonctionnalité suivant. Et je vais installer directement cette fonctionnalité-là. Je vais répéter l'opération pour l'ensemble de mes différents serveurs que je souhaite intégrer dans le cluster. Alors maintenant que la fonctionnalité File Over Cluster a été installée sur l'ensemble des machines que je souhaite intégrer dans ce cluster, sur n'importe laquelle de ces machines, par exemple ici je prends la machine From Air Node, je dois voir maintenant apparaître dans le menu outils du Server Manager File Over Cluster Manager. Alors avant de lancer la création du cluster, je vais aller sur une autre machine qui n'a rien à voir avec le cluster, afin de créer un répertoire partagé pour lui aussi le faire entrer dans le vote du quorum. Alors ici dans cette démonstration, la seule machine de disponible c'est le domaine contrôleur. Bien entendu, sinon il faudra prendre une autre machine que le domaine contrôleur, quoique ça pourrait marcher aussi. Et ce qu'on va faire ici, on va tout simplement aller créer un répertoire partagé. Donc moi ici je vais tout simplement prendre ici donc sur mon domaine contrôleur, créer un nouveau dossier. Ici, folder, et puis je vais l'appeler cluster share par exemple, que je vais partager. Et je vais prendre le compte install. Voilà, et je vais faire share. Voilà, donc ici j'ai le chemin de mon partage donc, que je copierai plus tard. Voilà, donc ça c'est fait. Et je vais revenir donc sur une des machines où je souhaite installer le service, de paramétrer pardon, le service du file over cluster. Hop. et je lance le Failover Cluster Manager. Alors, nous allons créer notre cluster ici. Donc, on va suivre l'assistant qui se propose à nous. Donc là, je vais cliquer sur Next. Et dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais rajouter le premier nœud de mon cluster. Voilà, donc je vais juste prendre un seul nœud pour le moment. Je vais faire suivant. Donc là, ici, je vais dire maintenant que je ne souhaite pas d'avoir de support de la part de Microsoft pour mon cluster. Et puis là, je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler donc Frommer Cluster, voilà, suivant, et je lance la création de mon cluster. Voilà, donc là, il m'a créé mon cluster ici avec un seul nœud. Alors, ce que l'on va faire dans un premier temps, ici, on va tout simplement, dans un premier temps, changer l'adresse de notre cluster, car comme vous pouvez le constater, notre cluster possède la même adresse IP que notre premier nœud. Alors, ce que l'on va faire ici, on va faire un clic droit, propriété, et on va lui définir une adresse. Donc là, moi, je vais lui mettre l'adresse numéro 12, car je suis persuadé que elle n'existe pas, elle n'a pas encore été prise sur mon réseau. Je vais faire un apply et je vais cliquer ensuite sur OK. Voilà. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais tout simplement aller dans la partie node ici de mon cluster et je vais maintenant faire un clic droit et je vais rajouter les autres nœuds à mon cluster. Donc ici, je vais chercher toutes les machines ici. Donc là, mes 4 serveurs SQL qui se trouvent en Europe. Et puis, je vais aller chercher aussi mon serveur qui se trouve aux États-Unis. Alors comme vous pouvez le constater, comme le serveur aux États-Unis est un petit peu plus loin, bien entendu, ça va être un petit peu plus de temps pour aller le récupérer, surtout pour vérifier que le service tourne bien sur la machine distante qui se trouve aux États-Unis. Voilà. Donc maintenant, je vais faire suivant. Pareil, donc je sélectionne nom, suivant, et je lance la création de mon cluster. Voilà, donc au bout d'à peu près une petite minute, mon cluster a été créé avec l'ensemble des nœuds que je viens de rajouter, dont le nœud se trouvant aux États-Unis. Donc là, je clique sur Finish. Alors, ce que nous allons faire maintenant, nous allons paramétrer le quorum de notre cluster afin de déterminer le nombre de votants et nous allons aussi rajouter ce qu'on appelle un file share. Quorum donc qui se trouve donc un dossier partagé qui se trouve sur un serveur en dehors du cluster. Donc en fait c'est le dossier que nous avons créé précédemment. Dans mon cas je l'ai créé sur mon domaine contrôleur car c'était la seule machine que j'avais de disponible en dehors de mon cluster. Alors pour ce faire ici, nous allons faire un clic droit sur la racine de notre cluster et aller ici dans les actions supplémentaires. Sélectionner Configure Cluster Quorum Settings. Donc on va faire deux choses en plus de définir le quorum file share. Nous allons aussi sortir le serveur USA dans le nombre des votants. Donc on va dire bah, le serveur USA ne va pas participer au vote du cluster. Étant sur une autre région Azure, avec les risques de temps de latence, on préfère le sortir du nombre de votants. Alors ici je vais sélectionner avancer, donc les configurations à avancer, je vais faire suivant et c'est là où je vais choisir les nœuds qui vont faire part du vote. Donc moi je retire le serveur USA. Maintenant je vais aller sur suivant et je vais configurer un file share witness. Donc suivant, je vais aller chercher le serveur qui contient donc mon dossier partagé. Dans mon cas, c'est ici. Mon serveur qui me sert aussi de domaine contrôleur. Voilà. Donc je récupère bien ici le dossier cluster share que nous avons créé précédemment. Voilà. Je vais faire next. Et je vais lancer la création, plutôt le paramétrage de mon quorum. Voilà. Donc voilà, donc si maintenant je reviens au niveau de la racine de mon cluster, je dois voir ici dans les ressources que j'ai maintenant un file share witness. Alors, ce que nous allons faire maintenant, nous voyons ici que notre adresse de notre cluster est en fail. Donc, ce que nous allons faire ici, nous allons faire un clic droit et on va tout simplement lui dire, voilà, bring online pour justement le mettre en ligne. Voilà. Alors, maintenant que notre cluster est en ligne, nous allons aller ici dans la partie réseau. Et nous allons voir que nous avons deux réseaux. En fait, ici, il trouve deux cluster network. Donc, rappelez-vous, donc nous avons des machines en Europe et une autre aux États-Unis. Donc, en fait, ce ne sont ni plus ni moins que ces deux réseaux. Alors, ce que l'on va faire ici, afin de s'y retrouver, surtout pour la suite dans nos scripts PowerShell qui vont arriver, nous allons renommer ces réseaux. Donc, ici, ce que je vais faire un double clic. Et ce réseau, je vais l'appeler... Réseau Europe. Voilà, et je vais faire la même chose pour ce réseau-là. Donc soit un double clic, soit clic droit Properties, et je vais l'appeler ici Réseau USA. Donc nous venons de configurer la première partie de notre cluster. Ce que nous allons faire maintenant, avant de continuer, nous allons revenir côté SQL Server afin de paramétrer le compte install, donc compte du domaine que nous avons paramétré dans la vidéo précédente, afin que le compte install puisse avoir accès à nos instances SQL Server. Alors le paramétrage que je vais vous montrer, je l'ai déjà fait pour mes quatre premières machines, donc je vais la faire pour la dernière ici. Et donc sur mon serveur USA, si j'essaye de me connecter avec mon compte de domaine install, si je clique sur connect, voilà, donc j'ai un login fail. Donc il faut que je configure ce compte pour qu'il puisse avoir accès à mon instance SQL. Alors pour ce faire, je vais revenir côté portail Azure ici et je vais me connecter à la machine SQL, donc USA ici, avec le compte que j'ai utilisé lors de la création de cette machine virtuelle. Donc ce compte en fait c'est ni plus ni moins le compte local, donc de nom de ma machine, Franmer, et je vais donc me connecter avec ce compte local. Voilà, donc je suis connecté à ma machine SQL Server USA. Et ce que je vais faire depuis cette machine, je vais aller chercher mon SQL Server Management Studio. Donc il est là ici, voilà. Et là donc, comme vous pouvez le voir, je vais me connecter avec le compte local de la machine. Donc là ici, pas de problème. Et ce que je vais faire maintenant, je vais aller dans Sécurité, Login, faire un clic droit et faire New Login. À partir de là, donc, je vais cliquer sur Search et je vais tout simplement lui dire, lui spécifier où est-ce qu'on doit aller chercher le compte. Donc, il a détecté que j'étais sur un domaine. Donc, je vais lui mettre dans le domaine Frommer mon login ainsi que le mot de passe. Voilà. Et je vais aller tout simplement chercher le compte install qui se trouve dans mon Active Directory. Voilà. Donc une fois que j'ai rajouté le compte, je vais aller dans les serveurs role et je vais lui définir ici en tant que sysadmin. Et je vais cliquer sur OK. Donc maintenant, une fois qu'on a fait ça, si je reviens donc sur ma machine SQL USA, donc via maintenant mon Remote Desktop Connection Manager, connecté en tant que compte de domaine Frommer Install, si je clique sur Connect, voilà, donc maintenant j'ai accès à ma base de données et je vais pouvoir, avec ce compte-là, avec ce compte de domaine, configurer mon serveur SQL pour notamment créer les groupes de disponibilité Always On. Alors, une autre manière aussi de rajouter le compte install sur l'ensemble de nos instances, au lieu de le faire un par un sur chacun des serveurs, c'est tout simplement ici utiliser la vue des serveurs enregistrés. Donc, c'est la vue qui est accessible depuis le menu View et Registered Servers ou Ctrl Alt G. Et tout simplement, donc, au niveau du groupe que l'on a créé avec l'ensemble de nos serveurs, passer ici un petit script. Donc, chose que je vais faire maintenant et je vais l'exécuter. Voilà. Donc, maintenant, mon compte install a été rajouté donc sur l'ensemble de mes serveurs et je lui ai donné donc le rôle sysadmin. Alors, nous allons continuer le paramétrage de nos serveurs SQL en définissant maintenant un compte de domaine pour le service SQL Server. Alors, pour ce faire, ici, donc, je vais retourner dans l'interface moderne et je vais tout simplement taper SQL Configuration Manager. Voilà. Et je vais avoir ici à l'ensemble des services SQL Server. Celui qui nous intéresse, donc, c'est ce service-là, SQL Server. Et je vais tout simplement faire un double clic dessus. Ici, donc dans la partie logon, vous avez accès à la partie justement des comptes qui peuvent se loguer via ce service. Enfin quoi, le compte que va utiliser le service pour se loguer à la base de données SQL Server. Alors ce que l'on va faire ici, on va cliquer sur Browse et puis on va tout simplement aller sur le domaine et nous allons chercher donc le compte SQL que nous avons créé dans la vidéo précédente. Donc normalement SQL, check name. Et nous allons rajouter tout simplement ce compte au service SQL Server. Voilà, donc on va bien lui paramétrer le compte et le mot de passe. Et nous allons cliquer sur OK. Donc comme il nous le dit, ces changements nécessitent le redémarrage du service SQL, donc chose que l'on va faire. Voilà, donc ici on voit bien que le compte a été modifié. Et ce que l'on va faire maintenant, nous allons faire un clic droit et un restart. Voilà. Alors bien entendu, l'ensemble de ces opérations, donc je vais les réaliser sur mes quatre autres serveurs qui se trouvent dans ce cas-là en Europe. Alors maintenant que nous avons paramétré notre compte SQL Server pour fonctionner avec un compte de domaine, nous allons continuer son paramétrage et maintenant lui dire qu'il appartient à un cluster et qu'il est disponible pour rentrer dans un groupe de disponibilité. Alors pour ce faire, on va double-cliquer sur le service pour entrer dans ses propriétés. Et là, ici, vous avez accès maintenant à un onglet qui s'appelle Always on High Availability. Dans cet onglet ici, vous retrouvez donc le nom du cluster que nous sommes en train de paramétrer et surtout en dessous une case à cocher pour activer la fonctionnalité Always On, groupe de disponibilité. Alors, bien entendu, une fois que l'on a coché la case, il faut valider et redémarrer le service et faire la même manipulation sur l'ensemble des nœuds que l'on souhaite faire rentrer dans le groupe de disponibilité. Cette opération peut aussi être réalisé via un script PowerShell pour automatiser un petit peu tout ça. Alors ici je vais vous montrer, donc là je n'ai pas validé volontairement, tout ça pour vous montrer donc comment ça se passe côté PowerShell. Donc ici j'ai mon script et ce script en fait va passer sur l'ensemble de mes nœuds et je vais tout simplement lui dire voilà active-moi la fonctionnalité Always On au niveau du service et surtout redémarre le service pour moi. Alors, je vais tout simplement exécuter le script. Et au bout de 2 minutes environ, mon script a activé la fonctionnalité Always On sur l'ensemble de mes serveurs. Alors, nous allons le vérifier tout de suite. Si jamais maintenant je retourne là, je suis sur mon serveur numéro 1. Je fais un double clic sur mon service, je vais dans l'onglet Always On. Effectivement, la case est bien cochée. Je vais faire de même pour mon serveur SQL aux USA, par exemple. Je vais dans les services, donc on va vérifier tout ça. Ici, voilà. Si je vais dans mon onglet Always On, donc maintenant la case est bien cochée et l'ensemble de mes serveurs sont prêts pour entrer dans un groupe de disponibilité. Alors maintenant que nous avons configuré notre service SQL sur l'ensemble de nos nœuds, nous allons continuer le paramétrage donc de notre groupe de disponibilité en commençant par réaliser la sauvegarde des bases de données que l'on souhaite inclure dans notre groupe de disponibilité. Alors pour cette démonstration, ce que l'on va faire ici, on va prendre deux bases. Alors j'ai récupéré la base AdventureWorks 2014 qui est maintenant disponible sur le site de Codeplex. Et je vais aussi utiliser une base que j'ai créée pour la démo, From Air in the Cloud, qui en fait est une base vide mais qui va me permettre d'avoir une seconde base dans mon groupe de disponibilité. Alors pour ce faire, je vais tout simplement commencer par sauvegarder ma première base. Donc je vais faire un clic droit dessus. Task et backup tout simplement. Et je vais commencer par backuper, donc dans un backup type full, l'ensemble des données. Alors pour ce faire, je vais le sauvegarder, je vais réaliser mon backup sur un partage réseau. Donc ce que je vais faire ici, je vais retirer ce chemin-là et je vais en rajouter un qui va correspondre ici à mon partage réseau. Hop. Voilà, et surtout, je ne vais pas oublier de donner le nom à mon backup. Voilà, attention, hop, mettre un point. Et donc, je vais tout simplement backuper complètement ma base de données. Voilà, alors, ce que je vais faire maintenant, je vais réaliser la même opération de backup sur la même base de données, mais ce coup-ci pour aller tout simplement backuper les logs ici, et je vais les mettre dans le même fichier .back. J'aurais pu les mettre dans un autre, mais là pour tout simplement une question de simplicité, je vais tout mettre dans le même fichier de backup, parce qu'il faut savoir qu'un fichier de backup peut contenir en fait plusieurs backups à des dates différentes. Alors ce que je vais faire ici, je choisis le même chemin, le même fichier, et j'enregistre mes logs. Voilà. Je vais réaliser la même opération pour ma base de données From Air in the Cloud. Voilà, je fais bien attention à être en full ici. Je vais lui préciser donc le même chemin. Ne pas oublier bien sûr de lui donner un nom. Hop, je vais appeler fromair.back. Voilà, ok. Et je lance la sauvegarde qui va beaucoup plus vite là ici vu que ma base elle est vide, et je vais réaliser la même opération pour les logs. Voilà, donc là je viens de réaliser l'ensemble des sauvegardes pour les bases de données qui vont rentrer dans mon groupe de disponibilité. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais restaurer l'ensemble de mes backups sur l'ensemble des autres serveurs SQL. Alors maintenant, nous allons procéder à la restauration de nos backups sur l'ensemble de nos différents nœuds. Donc ce que je vais faire ici, je vais prendre mon nœud numéro 2, là, donc From Air SQL 2, et je vais tout simplement lui dire, voilà, sur le dossier database, je vais dire, bah voilà, je vais restaurer une base de données. Donc je vais cliquer sur Device. Je vais prendre les trois petits points ici et je vais aller chercher mon fichier, donc qui se trouve sur mon partage réseau. Voilà, donc je vais le chercher ici. Voilà, et je vais récupérer le premier fichier de backup. Ok. Alors très important. Alors vous voyez, donc il récupère bien mes données et mes logs. Donc ce que je vais lui dire ici, je vais aller dans la partie file et je vais lui dire voilà, tu vas me restaurer tout ça donc dans les chemins par défaut, donc en cochant bien cette petite case-là. Et surtout dans les options, et ça c'est extrêmement important, lui dire on va restaurer avec l'option with no recovery. Et je lance tout simplement le restore. Voilà, donc je vais faire la même chose pour ma base From Air. Donc clic droit, Restore Database, Device. Ici, donc je vais chercher mon backup. Voilà, ma base From Air. Donc je vais faire de même. Donc je vérifie bien, voilà, j'ai mes logs et mes données. Je vais lui dire, hop, mets-moi ça sur les chemins par défaut. Et je vais bien lui dire, with no recovery. Et je clique sur OK. Voilà, donc là, ça va beaucoup plus vite. Ici. Et donc là, je vois bien maintenant mes deux bases de données restaurées qui sont plutôt en mode restoring. Alors, il faut que je réalise l'opération donc sur mes trois autres nœuds. Bien entendu, je peux faire de la même manière à la main, mais on a aussi la possibilité donc d'automatiser tout ça. Donc une manière de faire, c'est la suivante. Donc par exemple, je reviens sur mon nœud numéro 1. Et puis, donc là, je suis sur mon serveur, pour moi, un peu mon serveur qui pilote tout, un peu mon serveur maître, mais c'est juste une image. Et là, si jamais je vais dans les views, je peux tout simplement lui dire, montre-moi ici les serveurs enregistrés ou les registered servers. À partir de là, je vais pouvoir dire, bah, tout simplement, je vais pouvoir rajouter des serveurs ici. Alors, bien sûr, je ne vais pas prendre ni le serveur 1 ni le serveur 2. Donc, ce que je vais faire ici, je vais retirer ce serveur de l'ensemble de mon groupe de serveurs que je souhaite créer. Et puis, je vais rajouter les serveurs sur lesquels je souhaite faire la restauration. Donc, dans mon cas, c'est les serveurs 3, 4 et USA. Donc, je vais chercher ici mon serveur SQL 3. Mon serveur SQL 4. Et mon serveur aux USA. Voilà. Alors, une fois que j'ai rajouté dans un groupe l'ensemble des serveurs sur lequel je souhaite faire une opération, dans ce cas-là, une opération de restore sur mes deux bases données, je vais tout simplement me mettre au niveau du groupe ici, faire un clic droit et dire, bah, voilà, je vais faire une nouvelle requête. Donc là, la fenêtre de requête arrive, hein, comme d'habitude, avec une petite particularité, c'est qu'elle va se connecter ici au serveur du groupe. Et d'ailleurs, elle va vous le dire en bas, là, dans la partie en rose. Il dit, bah voilà, je suis connecté à 3 sur 3 des serveurs. Et puis là, en fait, je vais tout simplement lui passer ici un script SQL pour restaurer l'ensemble de mes bases. Donc, j'exécute ce script. Et donc, sur les 3 serveurs, il va procéder à la restauration de mes deux bases de données. Voilà, donc il faut à peu près moins d'une minute, donc comme vous pouvez le voir ici, à peu près 48 secondes, pour restaurer mes bases sur l'ensemble de mes 3 serveurs. Donc si maintenant je vais sur le serveur numéro 3, ici, je fais un refresh et que je vais dans mes bases de données. Donc voilà, donc je récupère bien mes bases de données qui sont dans un état restoring. Donc on va faire pareil pour mon serveur 4, on va vérifier jusqu'au bout. Voilà, et sur mon serveur aux États-Unis. Voilà, donc l'ensemble de mes bases ont été restaurées sur les autres nœuds et sont avec une restauration avec l'option no recovery, ce qui fait que l'ensemble des bases ici sont dans un état restoring sur les autres nœuds de mon serveur. Voilà, donc maintenant nous allons passer à l'étape suivante et nous allons continuer à mettre en place notre groupe de disponibilité. Alors maintenant, nous allons créer notre groupe de disponibilité. Alors ce que je vais faire, donc là pour le moment, je n'ai plus besoin de ça. Donc là, je vais me mettre sur mon serveur SQL 1 ici. Et dans le dossier Always On High Availability, je vais tout simplement faire un clic droit et cliquer ici sur l'assistant. Donc cet assistant, je vous rappelle, est disponible parce qu'au niveau des services SQL, nous avons coché la case groupe de disponibilité. Donc ici, je vais tout simplement exécuter l'assistant et je vais tout simplement bah, déjà lui donner un nom. Donc je vais l'appeler Frommer AG. Et là ici, donc, il me propose les bases de données qui sont présentes et que je peux sélectionner. Surtout, il nous dit les bases qui sont ici éligibles pour entrer dans le groupe de disponibilité. Donc là, comme j'ai fait les backups précédemment, donc là il me dit, bah voilà, celles-ci ont les prérequis pour entrer dans notre groupe de disponibilité. Donc je vais passer à suivant. Et donc là, il va tout simplement me demander de spécifier les serveurs que je veux rajouter en tant que réplica. Donc pour ce faire, c'est extrêmement simple. On clique ici et on va tout simplement chercher les serveurs que l'on souhaite rajouter. Voilà, donc maintenant que j'ai rajouté l'ensemble des serveurs que je souhaite voir dans mon groupe de disponibilité, je vais définir ensuite ceux qui sont en automatique failover, ceux qui sont en synchrone et surtout le comportement que ces serveurs vont avoir lorsqu'ils seront secondaires. Donc là, je peux dire qu'ils sont pas du tout disponibles en lecture en read attend only. Donc moi, ce que je vais faire, je vais tous les mettre dans mon cas ici en lecture. Voilà. Et je vais passer à l'étape suivante. Je reviendrai après pour la configuration du listener. On verra ça un petit peu plus tard. Donc là, je vais passer à l'étape suivante. Alors justement, c'est ce que je disais tout à l'heure au moment de faire les backups de mes bases. Soit je demande à l'assistant finalement de le faire pour moi. Donc j'ai juste à lui spécifier un chemin réseau. Et là, c'est l'assistant qui va faire pour vous le backup de vos bases. Et ensuite, la restauration en mode no recovery sur les différents réplicas. Soit on va faire juste join only et c'est l'option que l'on va prendre. Pourquoi? Parce que nous, on a déjà fait ce travail de backup restore. Comme j'ai tout à l'heure, donc ça permet de, surtout si on a des gros volumes de données, de pouvoir faire ce genre d'opération de manière un peu à différer s'il y a besoin. Une fois qu'on a choisi nos options, on passe à l'étape suivante. Et puis tout simplement, on exécute l'assistant pour la création de notre groupe de disponibilité. Donc voilà, donc il m'a fallu à peu près une trentaine de secondes pour créer le groupe de disponibilité. Donc maintenant, si je clique sur Close et que je fais ici un refresh, je vais pouvoir maintenant naviguer dans ce dossier-là et voir mon groupe de disponibilité ici, ainsi que mes différents réplicas et les bases qui font partie donc de ce groupe de disponibilité.